Le mois Market
avec Candy Crush.
Puisque c'est la fête pendant le mois Market, ça va l'être aussi dans nos assiettes?
Absolument, Michel. Et plutôt deux fois qu'une. Par exemple, pour un poulet 12 francs acheté, le deuxième est gratuit jusqu'au 22 novembre chez Carrefour Market.
C'est une offre doublement alléchante.
Et c'est aussi valable sur d'autres produits de marque.
Je me sens poussé des ailes. Vive le mois Market!
Viens jouer le mois Market.
Avec Candy Crush.
Remise créditée sur le compte fidélité, blanc ou jaune, panachage possible. Produit, magasin participant et ouvert le 11 novembre sur carrefourmarket.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Jamais sans elle, des femmes d'influence pour des hommes de pouvoir. C'est le titre de l'ouvrage que viennent de faire paraître Jacques Santamaria et Patrice Duhamel. Patrice Duhamel qui est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'ouvrage parle de toutes ces femmes, des épouses, des mères, pas seulement. Toutes ces femmes qui ont profondément influencé nos hommes d'État. Avec Patrice Duhamel cet après-midi, nous allons nous concentrer sur le rôle des mamans.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Gaëtan sur l'origine des plats qui composent nos menus.
Vaste sujet. Pour le moment, nous allons nous intéresser à un personnage fascinant, la mère de celui qui allait devenir l'empereur Napoléon III, la reine Hortense.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Quand Napoléon a épousé Joséphine, je devrais dire quand Bonaparte l'a épousée, elle avait déjà deux enfants, Eugène et Hortense, qui portaient le nom de leur père, Monsieur de Beauharnais. La jeune Hortense de Beauharnais est une des figures charmantes du Paris impérial. Elle est donc, puisqu'elle est la fille de l'impératrice Joséphine, par alliance, elle est la belle-fille de Napoléon. Mais elle est aussi sa belle-sœur, puisqu'il lui a donné en mariage son petit frère Louis Bonaparte. Ils se sont mariés en 1802 et le moins qu'on puisse dire est que ça n'a pas été un bon mariage. Imaginez Hortense, légère, vive, en même temps pleine de distinctions, d'intérêt à la culture, pleine d'ambition. Et puis en face, Louis, personnage soupçonneux, assez inconstant, disons-le, sans envergure. Il est nommé roi de Hollande, Louis. Donc voilà notre Hortense, reine de Hollande. Ils vont avoir plusieurs enfants et très vite ils vivent séparément. La reine Hortense, comme il faut l'appeler désormais, se distrait de ses malheurs conjugaux en aimant la brillante société du Paris impérial. Elle est éprise, je vous l'ai dit, d'art. Elle se pique de musique. On la voit surtout danser encore et encore au rythme de ses orchestres qui animent ce qui n'est pas encore la fête impériale. Ça, ce sera sous le règne de son fils, mais qui est la fête du Premier Empire, disons. Et bientôt, ce sont d'autres sons qui se font entendre. Ce sont les canonnades, les tambours des champs de bataille. On est en train de voir l'Europe entière se coaliser contre le beau-père et beau-frère, contre l'empereur Napoléon. Le sol se dérobe sous les pas de la belle danseuse. Au printemps 1814, l'Empire sombre. Et c'est dans un château à distance de Paris, en compagnie de sa mère, Joséphine, et de ses deux fils, Napoléon Louis et Louis Napoléon, qu'Hortense apprend que l'empereur a abdiqué, que la famille de Bourbon, les frères de Louis XVI sont rappelés, le frère aîné, le comte de Provence, monte sur le trône sous le nom de Louis XVIII, et là vraiment l'avenir devient très incertain pour l'ancienne famille impériale. Joséphine avait déjà divorcé de l'empereur, vous savez, pour lui permettre d'épouser l'archiduchesse d'Autriche et d'avoir une descendance. Elle est assez bien vue, l'impératrice Joséphine, et elle peut espérer la clémence des coalisés qui sont maintenant maîtres de Paris. Mais pour la reine Hortense, c'est beaucoup plus difficile. Elle est toujours mariée à Bonaparte, elle a deux enfants, et les enfants en question, ce sont des princes de cette famille Bonaparte, abhorrés désormais de toute l'Europe. Alors, parce qu'elle a un instinct de survie qui va très bien avec son grand caractère, et parce qu'elle a surtout un amour maternel qui la guide d'une certaine manière, elle va essayer de mettre sa nichée, à l'abri, la reine Hortense. Elle a une certaine tendance à l'inconséquence, mais elle n'en est pas moins intelligente. Et elle va, dans un premier temps, aller frapper, tenez-vous bien, à la porte de l'ancienne impératrice des Français, donc la seconde épouse de Napoléon, celle qui a remplacé sa mère dans la couche impériale, c'est-à-dire l'impératrice Marie-Louise, qui les conduit gentiment. Alors elle rentre à la maison, je devrais dire à la malmaison, chez sa mère. C'est l'époque où Vous savez, les alliés occupent encore Paris. Le tsar Alexandre est assez sensible à son charme. Il va porter une attention particulière à sa situation. Et il lui dit qu'il ira plaider sa cause auprès du roi Louis XVIII. Alexandre obtient pour sa protégée, nous dit André Castelot, le duché de Saint-Leu donné par le roi de France à Mademoiselle de Beauharnais, un don qui ainsi présenté semble annuler son mariage et sa royauté. Il n'est pas question de la reine de Hollande, il n'est même pas question de Madame Bonaparte, il est question de Mademoiselle de Beauharnais. Après tout, le vicomte de Beauharnais, lui, était tout à fait fréquentable aux yeux de la monarchie restaurée. Peu de temps après, Hortense se dit qu'il serait bien qu'elle aille remercier personnellement le roi. Vous imaginez la mère des neveux de l'empereur qui se présente aux Tuileries pour rencontrer le roi Louis XVIII. Elle est très inquiète, bien sûr, du sort de ses enfants. Elle est très audacieuse quand même. Louis XVIII ne sait pas comment faire. C'est une étonnante démarche, n'est-ce pas? Mais elle essuie tout simplement un refus poli de la part du roi. Napoléon, à ce moment-là, décide de quitter l'île d'Elbe où il était, vous savez, en semi-exil, si je puis dire. Il redébarque à Golfe-Juan, on a revécu tout ça l'année dernière à l'occasion du bicentenaire. Il remonte à Paris, il se réinstalle aux Tuileries pour 100 jours. Et ça, pour Hortense, bizarrement, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'elle était quand même quelques semaines plus tôt dans le bureau du roi Louis XVIII. Vous voyez, donc c'est un peu embêtant. Et d'autant plus que sa mère, Joséphine, est morte entre-temps. Napoléon ne la reçoit pas très gentiment. Elle essaie d'expliquer, elle dit « Mais sire, je ne savais pas comment faire. » Elle pleure, elle se jette aux genoux de l'empereur. « Qu'importe, lui dit Napoléon, vous ne deviez pas demeurer en France. Un morceau de pain noir eût été préférable. Votre conduite a été celle d'un enfant. Quand on partage l'élévation d'une famille, on doit en partager le malheur. » Mais comme souvent avec Napoléon, il pardonne. Il a toujours pardonné à sa famille, vous savez. Finalement, pendant les 100 jours, on va voir Hortense reprendre quasiment sa vie normale. Sauf que ça ne dure que 100 jours, que Waterloo arrive bientôt et que cette fois, c'est l'exil, mais vraiment cette fois, l'exil pour de bon.
De Schubert à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous, Franck Ferrand revient dans un instant pour vous parler cet après-midi des figures maternelles. C'est jusqu'à 15h sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et ce sont les figures maternelles qui sont à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous avez décidé de nous parler de la mère de celui qui allait devenir l'empereur Napoléon III, la reine Hortense, qui, ça y est en exil.
Oui, là, ça va vraiment très mal pour elle. D'ailleurs, elle a essayé de passer en Suisse, mais la Suisse lui interdit sa frontière. Elle est là échouée à Aix-les-Bains quand débarquent, littéralement, surgissent des hommes de son mari qui viennent pour se saisir de son fils aîné, Napoléon Louis. La scène est terrible. Cette mère à laquelle on arrache ses enfants est éperdue de douleur, bien entendu. Elle aura vu Hortense, à 32 ans, tout s'écrouler autour d'elle. Elle n'est plus reine de Hollande, ça, vous l'aurez compris depuis un moment. Elle a vu l'Empire s'effondrer, elle n'a bien sûr plus son mari, elle a toujours quelques amants, ça on y viendra, on en dira un mot tout à l'heure. Elle est riche, nous dit néanmoins une de ses biographes, riche d'elle-même. Est-ce que ce sera suffisant? Louis-Napoléon, vous l'aurez compris, Louis Bonaparte, le père, l'ancien roi de Hollande, a repris à ses côtés son fils aîné, Napoléon Louis, mais il a laissé le petit, Louis-Napoléon, parce qu'en fait, il est convaincu que cet enfant n'est pas de lui, et c'est ce que semble vouloir dire la science aujourd'hui, on en dira un mot tout à l'heure avec Patrice Duhamel. C'est donc désormais pour ce dernier fils qui lui reste et qui n'a que 7 ans, qu'Hortense va devoir s'en sortir. « Les soins qu'exigeait la santé de mon second enfant, dira-t-elle, santé naturellement délicate et dans ce moment altérée par le chagrin de voir partir son frère, me rappelèrent à des devoirs que je semblais négliger. Je jurais de vivre puisque j'étais mère et qu'une mère ne se remplace pas. » Il faut d'abord lui trouver une terre d'exil à cette mère. Alors, inutile de vous dire que la diplomatie de Louis XVIII fait tout pour l'éloigner de France, mais quand même, elle arrive à s'installer en Suisse, au château d'Arenenberg. Elle vivra désormais l'hiver à Augsbourg, en Bavière. Il faut vous dire que son frère, je ne vous ai pas parlé d'Eugène, mais enfin, il a des liens très proches avec la famille royale de Bavière. Et puis, l'été à Arenenberg, on pourrait croire que l'orage est un petit peu derrière elle. Elle va vivre désormais une vie un peu apaisée, se consacrant à l'éducation de son fils. « Ma seule ambition pour mon fils est qu'il soit digne, en volant par lui-même, de la destinée à laquelle il semblait appelé, écrit-elle. Plus son sort est abaissé, plus je tiens à ce que son éducation le mette au-dessus de toutes les positions et qu'il connaisse de bonne heure que le mérite vaut mieux que la grandeur. » Voilà de sages préceptes d'éducation pour celui qui un jour deviendra président de la République, puis empereur, à son tour. Ce petit Louis-Napoléon va être assez vite un personnage intéressant du reste. Avec, c'est vrai qu'il est d'une apparence assez réservée, même un peu sombre. Mais la personnalité est riche entre espièglerie, ironie, charme, ambition. Une ambition qu'encourage, qu'attise littéralement sa mère dans l'atmosphère d'exil d'un Arenenberg qui n'est certes pas propice à la grandeur. Et est nettement plus propice sans doute au mérite, comme elle le disait elle-même. Voilà ce que nous dit André Castelot. On apprend entre parenthèses que l'empereur déchu, Napoléon Ier, vient de mourir en 1821. Il ne demeurait pour Hortense qu'un titre à peine porté, déjà oublié. Des couronnes royales sur le linge, la vaisselle ou l'argenterie, des « Votre Majesté » prononcées avec une pointe d'orgueil par ceux qui n'auraient jamais l'occasion de fréquenter de vrais souverains, et ses reliques rangées dans des vitrines devant lesquelles le petit Louis-Napoléon s'écrasait le nez sur la glace, comme c'est bien écrit. Il va grandir, Louis-Napoléon. On va le voir effectuer de plus en plus fréquents séjours à Rome. Il ne faut pas oublier qu'une partie importante de la famille impériale est en exil à Rome, sous la protection du pape, paradoxalement. La grand-mère, la matriarche, madame-mère, Laetitia, se prend d'affection pour lui. Et avec son frère Napoléon Louis, il va faire les 400 coups. Il faut dire que Hortense, à travers ses conseils, a quelque peu attisé le feu qui déjà brûle dans ses deux fils. À tout événement, soyez prêts jusqu'à ce que vous puissiez vous-même préparer les événements, dit-elle. Ne rebutez personne sans vous donner absolument à personne. Je vous l'ai dit, surveillez l'horizon. Il n'est comédie ni drame qui se déroulant sous nos yeux ne puisse vous fournir quelques motifs d'y intervenir comme un dieu de théâtre. Moi, je trouve quand même que cette mère, si volage fut-elle et si peu sage, se révèle une très bonne conseillère et se révèle quasiment une éducatrice. Elle recommande à ses enfants la patience, la prudence. Alors ça, ils n'écoutent pas du tout. Ils vont très vite se prendre de passion pour la grande cause du temps qui est l'unification italienne. Ils participent à une conspiration au tout début des années 1830 jusqu'à prendre de grands risques. Et la reine Hortense, d'ailleurs, est morte d'inquiétude. Elle avait raison. Tout ça tourne mal. L'aîné, Napoléon Louis, va être pris dans des circonstances très troubles qui seraient un petit peu longs d'éclaircir ici. Et il finit par mourir. Ça, c'est un coup terrible pour Hortense qui, on a envie de dire une fois de plus, comme au moment où on lui avait arraché son fils, se retrouve seul avec Louis-Napoléon qui lui-même tombe malade alors que les Autrichiens sont en train d'entrer dans la ville et qu'il lui est impossible de fuir. Décidément, cette femme semble destinée à subir des situations quasiment impossibles. Vous l'aurez compris, elle a du ressort néanmoins et l'énergie qu'elle met à combattre le mauvais sort va se retrouver bien entendu très vite dans son fils, dans ce fils que l'Europe entière pourra bientôt juger.
Franck Ferrand
14h-15h sur Europe 1.
Franck Ferrand, vous avez décidé de rendre hommage à une femme. Aujourd'hui, la reine Hortense, la mère de celui qui deviendra l'empereur Napoléon III, elle vient de perdre son fils aîné. Elle a donc des ambitions pour le deuxième.
Oui, le deuxième est malade. Vous avez compris que les Autrichiens sont là, dans Rome, ce qui empêche une exfiltration. C'est très difficile. Alors on va jouer la comédie. Avec un ami, Louis-Napoléon se fait raser la tête. On l'affuble d'une livrée, d'un grand bonnet et... au nez et à la barbe des Autrichiens, le 3 avril 1831, au petit matin, le neveu de Napoléon s'échappe en se faisant passer pour un serviteur de sa mère. Et ça marche. Alors, à partir de là, il y a toute une folle équipée à travers l'Italie. C'est assez cocasse comme situation, parce qu'il faut imaginer Louis-Napoléon qui joue les valets, hein, qui suit ces dames avec un grand parapluie. C'est pas la dernière fois, d'ailleurs, qu'il jouera la comédie, Napoléon III. On le verra beaucoup plus tard se faire passer pour un ouvrier pour s'échapper du fort de Ham. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Hortense décide de se diriger vers la France, où les Bonaparte à l'époque sont interdits de séjour. Alors vous rappelez que au moment de la première restauration, elle était déjà allée voir le roi Louis XVIII aux Tuileries. Eh bien, pourquoi pas recommencer? Cette fois, le monarque sur le trône, c'est le roi Louis-Philippe Ier. Eh bien, elle va essayer de rencontrer Louis-Philippe pour plaider sa cause. Alors, vous imaginez la tête un peu de Louis-Philippe. Il est lui aussi un peu décontenancé par l'intrépidité de la reine Hortense, mais il se montre plutôt compréhensif et bienveillant, sans pour autant aller jusqu'à admettre de mettre un terme à l'exil des Bonaparte, bien entendu. Quant à Louis-Napoléon, il doit se résigner à repartir avec sa mère pour l'étranger. Le voilà de nouveau à Arenenberg, où reprend la vie habituelle. Alors on reçoit quand même des personnalités importantes de toute l'Europe. Je pense à Chateaubriand, Alexandre Dumas, etc. Et bien sûr, pour cette mère, il s'agit maintenant de marier son fils. Elle n'y arrivera pas, hein, je vous le dis tout de suite. Elle n'a pas fini de s'inquiéter pour Louis-Napoléon. D'ailleurs, entre parenthèses, l'Aiglon est mort à ce moment-là, en 1832, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'héritier direct de Napoléon Ier et que l'héritier de la maison impériale, c'est maintenant son fils, c'est Louis-Napoléon, qui va néanmoins devoir attendre un peu avant de monter sur le trône. En 1836, il essaie de soulever une garnison à Strasbourg. C'est un échec complet. Cette fois, Louis-Philippe fronce les sourcils et il n'est pas trop méchant d'ailleurs, parce qu'on se contente d'exiler Louis-Napoléon aux États-Unis. Nouveau coup dur pour Hortense. Il y a maintenant un océan entre son fils et elle. Vous imaginez ce que c'était qu'un océan au 19e siècle. La santé d'Hortense se dégrade. En fait, elle est atteinte par un cancer. On rappelle donc Louis-Napoléon qui quitte les États-Unis et ça va être une course contre la montre. Il veut absolument arriver à Arenenberg avant que sa mère ne soit morte. Il est là début août 1837, il est là à temps. Il contemple Hortense mourante, elle qui l'a tellement chérie, tellement protégée, qui maintenant est si faible. Elle le revoit, elle a 54 ans à l'époque, la reine Hortense. Et le fait d'être de nouveau dans la compagnie de son fils chéri lui redonne un petit peu de force. C'était le dernier sursaut, puisqu'elle meurt le 5 octobre 1837. Louis-Napoléon écrit à son père, nous disent Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, « Je viens d'éprouver une perte irréparable. » Et quand il ouvre le testament, il lit « Je n'ai point de conseil politique à donner à mon fils. Je sais qu'il connaît sa position et tous les devoirs que son nom lui impose. » Les devoirs, vous aurez bien compris, puisqu'il est maintenant, encore une fois, l'héritier final, en tout cas de la maison. Louis-Napoléon, quand il deviendra beaucoup plus tard l'empereur Napoléon III, restera attaché au souvenir de sa mère. Et l'on dit que, où qu'il aille, l'empereur avait avec lui une précieuse lettre que sa mère n'avait jamais envoyée, mais qu'elle avait écrite avant une des interventions chirurgicales de la fin. Et voilà ce qu'on trouve dans cette lettre que Napoléon III gardait sur lui. C'est une lettre donc de la reine Hortense. « On doit me faire une opération nécessaire. Si elle ne réussissait pas, je t'envoie par cette lettre ma bénédiction. Nous nous retrouverons, n'est-ce pas, dans un meilleur monde, où tu ne viendras me rejoindre que le plus tard possible, et tu penseras qu'en quittant celui-ci, je ne regrette que toi, que ta bonne tendresse qui seule m'y a fait trouver quelque charme. Cela sera une consolation pour toi, mon cher fils, de penser que, par tes soins, tu as rendu ta mère heureuse autant qu'elle pouvait l'être. » Bonjour Patrice Duhamel.
Bonjour.
Personnage fascinant que cette reine Hortense, dont je n'ai fait qu'effleurer l'existence tellement mouvementée, elle fait partie de ces mères qui ont forgé de grands hommes. Eh bien, ce sont à la fois les grands hommes et leur maman que, grâce à vous, nous allons retrouver dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
On le dit souvent, derrière chaque grand homme se cache une femme. Nous allons en avoir la preuve aujourd'hui. Franck Ferrand, vous recevez Patrice Duhamel, journaliste et ancien directeur général de France Télévisions, auteur de Jamais sans elle, des femmes d'influence pour des grands hommes de pouvoir, avec Jacques Santamaria, paru chez Plon.
Justement, vous dites derrière chaque grand homme se cache une femme, c'est ce qu'on dit. On pourrait dire, en l'occurrence, Patrice Duhamel, derrière chaque grand homme se cachent même plusieurs femmes, puisque vous nous livrez leur mère, pour certains même leur grand-mère. Absolument. Je pense à Malraux ou à
Talleyrand ou Mitterrand.
Oui, c'est ça.
La grand-mère de Mitterrand
a joué un rôle essentiel.
Oui.
Et puis, bien entendu, des épouses, des maîtresses.
Des filles, des cousines.
Des cousines, parfois même des femmes idéelles ou idéales, puisqu'on pense à la femme France dont vous parlez pour le général de Gaulle, par exemple.
Absolument.
Alors, pour nous concentrer un peu sur les mères aujourd'hui, parce qu'il fallait, au milieu de toutes celles que vous évoquez dans cet ouvrage, en choisir certaines, revenons peut-être d'abord à la mère de Napoléon III, à cette reine Hortense. En fait, on connaît bien la mère de Napoléon III, ça, il n'y a aucun doute. Le père, c'est plus discutable. Semble-t-il.
Oui, et puis le couple s'entendait très mal, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le point commun, si on peut en trouver un ou deux, de toutes ces mères qui ont vraiment marqué la personnalité, forgé la personnalité de leur fils, de Napoléon Ier, Napoléon III, jusqu'à aujourd'hui, puisque dans le livre on va jusqu'au président actuel et au premier ministre actuel, c'est, je dirais, donner une ambition, de transmettre une ambition, de donner une confiance hors norme, et de guider sur un certain nombre de rails. Et là, la reine Hortense, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne cesse de dire et d'écrire à son fils, il faut que tu sois digne du nom que tu portes, il faut que tu sois digne des Bonaparte, et sous-entendu, et même entendu, il faut que ce soit toi qui prenne le relais de Napoléon Ier. Et à un moment, elle écrit dans son testament « Le monde peut bien être pris deux fois au même lacet », ce qui est d'un cynisme total d'ailleurs, mais bon, on voit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il faut que tu
sois aussi... Ça a marché
aussi...
pour l'oncle, pourquoi pas pour le neveu, finalement.
Voilà. Et elle va malheureusement pour elle disparaître 11 ans avant
mais
qu'il prenne le pouvoir,
pour...
vous l'avez évoqué, en 48.
Et le pire, c'est qu'elle meurt, non seulement ça, mais elle meurt un an après la tentative complètement avortée dite de la garnison de Strasbourg. Hein. C'est une affaire assez sinistre où le jeune Louis-Napoléon s'est lancé dans l'aventure sans avoir du tout préparé son affaire, qui est un désastre complet. Mais l'énergie qu'elle a réussi à lui insuffler, l'ambition qu'elle lui a conférée, vont faire en sorte que Louis-Napoléon ne se décourage jamais. On l'a vu comme un beau diable sous les murs de Rome au milieu des Carbonari au début des années 1830. On l'a vu à Strasbourg. Eh bien, ça continuera. Il y aura un débarquement, puis deux, etc. Il se trouvera enfermé au fort de Ham. Eh bien, il en sortira encore. Il trouve le moyen... en décembre 1848, d'être élu président de la République et ensuite de transformer la République.
Le premier au suffrage universel,
exactement.
Même s'il n'y avait que les hommes qui votaient à ce moment-là.
Et de transformer ensuite cette République en empire, voilà. Et de rétablir l'empire. Bref, est-ce qu'on peut dire de la reine Hortense qu'elle avait en quelque sorte reporté sur ses enfants, et notamment sur le plus jeune des deux, une ambition qu'elle n'avait pas pu satisfaire elle-même, parce qu'elle avait été reine de Hollande, certes, mais alors...
Comme beaucoup de ces mères exceptionnelles qui ont mis au monde des fils qui vont devenir de grands dirigeants, donc ce sont des femmes exceptionnelles qui auraient pu avoir un destin exceptionnel, la reine Hortense en fait partie. Moi, je pense que, sans être un historien, comme vous et comme d'autres, je pense qu'elle a transmis à Louis-Napoléon une sorte d'obsession de reconquête du pouvoir.
Voilà.
Au-delà même de l'ambition, une espèce d'obsession. Parce qu'il était obsédé. Et puis il y a une autre femme, là on n'a pas le temps d'en parler, mais qui, entre la mort de la reine Hortense et l'accession au pouvoir de Louis-Napoléon, va jouer un rôle absolument majeur.
Vous la mettez très en avant.
Qui est la cousine de Louis-Napoléon Bonaparte.
La princesse
Mathilde, qui est la fille du frère Jérôme, roi de Westphalie, de Napoléon Ier, et qui va jouer un rôle absolument majeur auprès de son cousin.
et qui va constamment le porter, le soutenir quasiment comme...
L'aiguillonner, oui.
Presque mieux même que son épouse Eugénie. Mais enfin, vous dites Eugénie, comme il disait, ce n'est peut-être pas tellement le sujet ici. J'aimerais qu'on revienne à une autre mère, c'est celle de l'oncle. C'est la mater napoléoniste, c'est celle qui est au cœur de cette affaire, celle qui a donné naissance à cette fratrie invraisemblable, c'est Laetitia Bonaparte.
Personnage absolument incroyable, une autorité naturelle, très belle, une ambition inouïe pour son fils. Alors, lorsqu'il y a des fratries pour ces grands hommes d'État, que ce soit Napoléon, que ce soit De Gaulle, que ce soit Mitterrand, que ce soit Clémenceau, c'est toujours, presque toujours, le fils préféré qu'elle soutienne. Et là, elle lui a transmis, là aussi, l'obsession du pouvoir. Elle va le soutenir jusqu'au bout. Ce qui est intéressant chez elle, par rapport à la reine Hortense et à d'autres mères, c'est assez spécifique à Laetitia, c'est que elle garde son indépendance, sa liberté de parole. Bon, ils ont eu des accrochages avec Napoléon Ier. Il y a la fameuse affaire extraordinaire du couronnement en 1804.
Elle a suivi Lucien en Italie.
Voilà,
en fait,
et puis elle est quand même extrêmement réservée là-dessus. Ouais. Donc elle dit à son fils, puisque c'est ça, je ne viens pas. Et la petite revanche ou la grande revanche de Napoléon Ier sera de demander au peintre qui va faire ce tableau, David, qui va faire le fameux tableau sur le couronnement, de rajouter le personnage de Laetitia qui pourtant ce jour-là n'était pas là.
C'est ce qui ça m'a donné à réfléchir votre ouvrage. Et je me dis par exemple que dans le cas de Laetitia, on a eu des doutes là aussi sur la paternité de Charles Bonaparte, le père de Napoléon. Et on a dit que pour cet enfant-là, et peut-être pour un autre du reste, le véritable père aurait pu être le gouverneur de l'île de Corse, c'est-à-dire le comte de Marbeuf, grand militaire, grand soldat, d'ailleurs stratège du règne de Louis XV. Comme si, lorsqu'elles avaient... Alors je ne dis pas que c'est le cas de Laetitia, attention qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas.
C'est le cas pour la reine Hortense.
Pour ce qui est de la reine Hortense, on en est maintenant quasiment sûr. Ouais. Comme si quand elles ont fauté, quand il y a eu comme ça une sorte d'accro, quand elles ont un enfant qui est l'enfant de l'amour, d'une certaine manière, elles le portaient davantage encore. Hein, c'est assez étrange, ça, tout de même.
Oui, et c'est aussi un point commun, en tout cas, peut-être, en tout cas sûrement pour la reine Hortense. Mais sur ces mères, moi, il y a la phrase qui m'a le plus frappé pour le livre, c'est quand j'ai rencontré Robert Badinter. Ça a été un moment extraordinaire, parce qu'il a eu une mère qui était une personnalité absolument exceptionnelle.
Charlotte
Badinter. Et Robert Badinter m'a dit, on commence le chapitre qui le concerne là-dessus, si vous voulez connaître un homme, regardez sa mère.
Ah,
et ça c'est exactement ce qui se passe quand on rentre dans le détail.
Et c'est un grand pénaliste, grand avocat qui le dit, c'est-à-dire qu'il a eu l'occasion de se pencher sur un certain nombre de cas critiques, j'imagine.
Oui, absolument.
Parce que ça n'est pas vrai seulement pour les grands hommes, somme toute. On pourrait dire que c'est vrai d'une façon générale pour tous, et particulièrement pour ceux dont le destin est particulier. Alors, ces mères fascinantes, est-ce qu'on peut dire aussi que leur fils se construit contre elle, d'une certaine manière? Ça a été le cas incontestablement de Napoléon Ier, qui est allé bien au-delà des espoirs de sa mère. C'est un petit peu le cas aussi, d'une certaine manière, de Georges Clémenceau, on peut dire ça.
C'est le cas de Georges Clémenceau, mais Georges Clémenceau, c'est un peu un contre-exemple dans notre livre. C'est un personnage qu'on aime bien, donc on avait envie d'en parler, mais on l'aime bien avec ses limites et ses défauts, parce que c'était quand
c'est que moi je l'aime pas tellement, mais enfin bon, vous avez le droit de l'aimer. Hein.
C'était un grand misogyne. Donc les femmes, jusqu'à la dernière, celle qu'il a éperdument aimée à plus de 80 ans, Marguerite, franchement, les femmes n'ont pas exercé une influence forte sur lui. Ce qui est vrai, c'est que dans son éducation, sa mère Emma a joué un rôle important, puisque dans la légende Clémenceau, on dit qu'elle a même appris le latin et le grec pour pouvoir l'enseigner à ses enfants.
C'est quand même tout à fait incroyable. Hein. Ce sont des mères très dévouées. Alors ça, c'est peut-être un signe de l'époque, du temps aussi, hein, d'une certaine manière.
Oui, enfin, elles le sont. Toute la partie contemporaine sur les présidents, les premiers ministres, les grands dirigeants de la Ve République, il y a aussi énormément de mères dévouées. La mère de Jacques Chirac, la mère de François Mitterrand, la mère de Valéry Giscard d'Estaing, la mère de Juppé.
On va revenir à tout ça tout à l'heure. Disons un mot de la mère du général de Gaulle, de Jeanne de Gaulle.
Ah oui, personnage étonnant. L'armée, c'est le père. Et l'amour de la patrie, l'amour de la France,
l'idéalisation de cette France,
l'idéalisation en fait, hein. De cette France et du rôle que son fils Charles, qui lui aussi donc était évidemment le fils préféré, tout ça, ça vient de la mer, avec cette rencontre extraordinaire le 15 juin 40, c'est-à-dire trois jours avant l'appel de Londres, où il passe lui dire au revoir en Bretagne. Elle s'est réfugiée en Bretagne. Avant de partir à Londres, il passe lui dire au revoir. Et quand elle apprend qu'il y a eu l'appel du 18 juin, elle dit « bon, bah, il a fait son devoir sous-entendu, je m'y attendais parce que je savais qu'un jour il sauverait la France. » Et elle va mourir quelques semaines plus tard.
Et oui, et c'est une relation toute de pudeur et de tendresse entre le futur général de Gaulle et sa mère. On n'a pas cette image hein, de l'enfance du général de Gaulle. On pense à une famille assez froide, assez rigide, etc. C'est pas ça.
C'est beaucoup de tendresse du côté de la mère.
Mais oui, hein, c'est vrai.
Mais il y a beaucoup d'idées fausses sur les femmes qui ont influencé le général de Gaulle. Sur la mère et sur Yvonne. Oh là là, on en parle beaucoup.
Et comment? Et vous ne parlez pas que d'Yvonne, du reste.
Non, la nièce, Geneviève de Gaulle-Antonioz, qui est rentrée il y a quelques mois au Panthéon, a joué également un rôle majeur.
Jamais sans elle, des femmes d'influence pour des hommes de pouvoir, ça ne parle pas seulement des mères, hein, ça parle de toutes ces femmes qui ont influencé nos grands hommes. Un ouvrage publié chez Plon et signé Patrice Duhamel et Jacques Santamaria que nous saluons très chaleureusement.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Grand-mère, épouse, fille, toutes ces femmes ont joué un rôle très important dans la vie des grands hommes de l'histoire. Franck Ferrand, cet après-midi sur Europe 1, vous recevez Patrice Duhamel, journaliste et ancien directeur général de France Télévisions, auteur de « Jamais sans elle, des femmes d'influence pour des hommes de pouvoir », livre co-signé avec Jacques Santamaria et paru chez Plon.
Alors, il faut que nous revenions sur un certain nombre de ces mères, puisque nous avons décidé, nous, dans le cadre de cette émission, de nous intéresser aux mères, Patrice Duhamel. Mais je voudrais quand même dire à quel point on sent à chaque page de ce livre votre amour pour toutes ces femmes. Vous les aimez, ces femmes, en fait.
Oui, on les aime vraiment, à deux, trois exceptions près. Jeannette Torres, on n'a pas une passion pour elle. Oui. Qui est sans doute la femme la plus influente de l'immédiat après-guerre hein, dans la vie politique française. Parce qu'elle a quasiment dirigé le Parti communiste, notamment quand son mari était en train de se faire soigner à Moscou. Mais oui, on les aime vraiment parce que ce sont des personnages extraordinairement attachants, avec des qualités extrêmement différentes. Et ce qu'elles ont transmis, c'est des valeurs qui sont très différentes d'un homme politique à un autre. Et on voit bien dans quel sens ensuite ils se sont dirigés.
Et très vite, pendant très longtemps, elles vont agir dans l'ombre, forcément. Ce sont des femmes d'influence, voire même d'une influence déterminante, je pense l'avoir démontré avec le cas de la reine Hortense. Mais pour autant, elles n'ont pas de rôle officiel dans l'État, évidemment, et encore moins dans la politique.
Non, mais tant qu'elles sont là, après on peut considérer que ce sont les épouses ou les compagnes qui prennent le relais, mais tant qu'elles sont là, elles jouent un rôle majeur. Et parfois, il y a deux ou trois exemples dans le livre. C'est le cas pour Jean Jaurès, la mère de Jean Jaurès, c'est le cas pour la mère de Philippe Séguin plus récemment. Ils forment une espèce de couple, ils sont absolument inséparables. Les mères sont là au quotidien, et avec des relations souvent d'ailleurs difficiles avec leur belle-fille, ce qui était le cas avec la femme de Jean Jaurès.
Alors notamment. Justement, parlons-en d'Adélaïde, la mère de Jean Jaurès.
Joli personnage. Une bourgeoise qui s'est considérée comme déclassée, qui va transmettre une forte conscience sociale à son fils Jean Jaurès. Elle va le soutenir comme on ne soutient exceptionnellement ses enfants dans toutes ses études qui sont brillantissimes. Hein, concours général, agrégation de philosophie, il devient normalien. Elle va être légèrement réticente, ce qui est le cas d'autres mères aussi, y compris de mères d'hommes politiques contemporains comme Juppé ou comme Bayrou ou comme d'autres, sur l'engagement dans la vie politique, parce qu'elles craignent la cruauté
et voilà,
de cette vie politique.
Elles veulent préserver leurs enfants.
Hein. Elles voulaient que ça soit, qu'ils soient au sommet, mais elles auraient préféré qu'ils soient
un sommet protégé.
Voilà, ambassadeur, diplomate, professeur de médecine,
ou conseiller d'État,
etc.
C'est plus tranquille.
Voilà. Et franchement, la politique lui fait peur. Mais la mère de Jaurès, elle sent bien que son fils, voilà. Mais il est battu deux fois aux élections. Et à chaque fois, elle va pas pleurer. Hein. Elle sera plutôt... Elle se demande même s'il va pas reprendre sa vie d'universitaire. Et et l'évolution politique de Jaurès, il est élu sous l'étiquette républicaine, ça serait disons de centre-gauche aujourd'hui à peu près, et son évolution vers le socialisme,
radicalisme de plus en plus fort,
c'est
oui.
beaucoup l'influence de la mère qui porte ses valeurs de lutte contre les inégalités, etc. Ça va être extrêmement fort pour lui.
Et on a presque l'impression que plus Jaurès avance en âge, plus il grandit dans sa conscience politique, et oui. plus ce sont les idées de sa mère Absolument. Qu'il finit par oui. adopter et par porter à incandescence.
La laïcité, par exemple, alors que c'était une catholique pratiquante, mais elle lui a transmis cette idée de la république laïque. Et c'est ce qu'il va porter ensuite.
Il y a, je ne sais plus combien exactement, 25 ou 26 personnalités dans votre ouvrage.
Hein. Il y a 26 dirigeants politiques, donc on parle d'une centaine de femmes. Quoi,
dont un certain nombre très actuel, on va y venir bien dans sûr. Un instant bien entendu. Mais il y a d'autres hommes de gauche, notamment un très emblématique, mais alors dont ce n'est pas la mère qui aura été la principale égérie. Je pense à Léon Blum en l'occurrence.
Léon Blum, la mère, Marie, joue un rôle dans son éducation. Elle adore, elle a une passion absolue pour son fils, mais elle le laisse un peu faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, et il a une vie un peu de dandy, tout ça, ça lui convient très bien, elle est toujours là. Il sait qu'elle est toujours là, voilà. Léon Blum, ce sont ses trois femmes successives, il va être deux fois veuf, ce sont ses trois femmes successives qui vont jouer un rôle essentiel et à des périodes très différentes de sa vie publique et politique.
Vous avez cité tout à l'heure très furtivement les noms de Philippe Séguin, de Alain Juppé, de François Bayrou, dont les maires ont également joué un rôle absolument essentiel. Jacques Chaban-Delmas aussi, il aurait fallu
Jacques
dire.
Jacques Chaban-Delmas, hein. Georgette, qui lui dit, qui ne cesse de lui dire pendant sa jeunesse et son adolescence, ta mère, c'est la France. Vous vous rendez compte, elle met la barre quand même très haut. Elle aussi sera un peu réticente quand il va s'engager dans la vie politique après la libération, après une guerre absolument flamboyante, puisqu'il est le plus jeune général nommé par Londres. Mais elle sera là en permanence. Il a des relations difficiles avec son père. Elle ne cessera jusqu'au bout de le soutenir contre vents et marées, avec beaucoup d'inquiétude, notamment pendant la guerre. Et c'est quelqu'un qui, pour lui, Chaban-Delmas, et pour les auditeurs qui se souviennent, c'était un grand homme d'État. Moi, j'ai beaucoup aimé Jacques Chaban-Delmas, qui a été Premier ministre de Georges Pompidou de 69 à 72.
Et maire de Bordeaux pendant des décennies.
Et maire de Bordeaux,
sûr,
voilà. Ouais. Et elle est totalement incontournable. On ne comprend pas Chaban si on ne connaît pas la maire.
Ouais. C'est le cas de la plupart, finalement. Oui. Alors, on a droit, dans votre ouvrage, à tous les présidents de la République. Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, même François Hollande, bien sûr.
Absolument. Et François Hollande, c'est un cas assez particulier, parce qu'il a des parents qui ont des personnalités aux antipodes. Son père est d'extrême droite, il est même candidat au municipal à l'extrême droite. C'est un homme sévère, sa mère est chaleureuse, elle est tendre, c'est une assistante sociale, elle est de gauche, et il va très vite choisir la mère, à la fois sur le plan personnel, sur le plan psychologique, affectif et politique. Et elle va le soutenir jusqu'à la fin de sa vie, qui sera une fin de vie extrêmement difficile. Fin de vie, l'un des sujets dont s'occupe beaucoup François Hollande, et c'est sans doute lié à ce qu'il a vécu dramatiquement avec sa mère.
Oui, bien sûr. On pourra peut-être un jour écrire un ouvrage sur le rôle des pères des femmes politiques, mais enfin ça évidemment il y en a beaucoup moins de femmes politiques. Ce que vous auriez pu faire aussi, mais c'est un tout autre sujet, c'est le rôle des pères des hommes politiques qui jouent aussi un rôle étonnant. Hein.
Oui, c'est le cas. Oui, on parlait du général de Gaulle, le père le père de François Mitterrand également. Mais je trouve à la fois historiquement, politiquement, psychologiquement, et pardon de dire ça à un grand historien, Oula. Sur le plan romanesque, je pense que c'était... on avait envie de parler des femmes et notamment des mères.
Bien
voilà,
sûr.
Le destin de ces mères est quelque chose de très romanesque.
Alors je signale quand même à nos auditeurs que, encore une fois, vous ne parlez pas que des mères dans ce livre, loin de là, vous parlez beaucoup des épouses, oui. Largement même, vous parlez aussi de temps en temps des amies, voire des maîtresses, enfin oui, des, oui. bref, de toutes ces femmes, des cousines, comme vous l'avez dit, de toutes ces femmes qui
des
gravitent,
sœurs,
des
sœurs. François Mitterrand.
Alors on parle de Talleyrand, on parle du petit père Combe, on parle de Maurice Thorez, vous en avez dit un mot, de Vincent Auriol, de René Coty, de Malraux, vous avez tout à l'heure cité Robert Badinter, etc. Lionel Jospin, même Georges Marchais, finalement.
Oui, Liliane.
Fait les valises.
Liliane fait les valises, on rentre à Paris. Mais qui était une vraie militante communiste et qui a soutenu son mari pendant toute sa carrière politique.
Merci beaucoup, Patrice Duhamel, d'être venu.
Merci à vous.
Éclairer à travers ce prisme particulier, la vie politique française depuis plus de 200 ans. Jamais sans elle, des femmes d'influence pour des hommes de pouvoir. C'est édité chez Plon.
Et dans un instant sur Europe 1, nous allons parler gastronomie, puisque Franck vous répondrait à la question de Gaëtan.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, c'est une question de Gaëtan sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire. Franck, pourriez-vous nous parler de l'origine des noms, des plats qui forment la composition de nos menus?
Oui, alors, puisque Gaëtan me demande nos menus, je pense qu'il veut dire nos menus actuels. Parce que vous savez, autrefois, on disait par exemple les viandes, ça s'appelait le rô. C'était le rôti, si vous voulez.
Ah oui.
Oui, je vous rassure. Je vous vois tout de suite ouvrir de grands yeux. Oui, le rô, R-O-S-T, le rôti. Le dessert, on appelait ça le fruit autrefois. Bon, etc. Ben là, c'est plus le cas. Alors, les hors-d'œuvre, ben, vous voyez d'où ça vient. Hors-d'œuvre, c'est pas très compliqué. Hors-d'œuvre, nous dit le Robert, se dit en matière de bâtiment pour parler d'une pièce détachée du corps du bâtiment. Eh bien, un peu de la même manière. Dans le domaine gastronomique, depuis le tournant de, on va dire, de 1700, le hors-d'œuvre, c'est ce qui est en dehors de la composition même du repas. L'apéritif, je n'ai même pas envie de vous dire d'où ça vient. Impertibus en latin, ouvrir, il faut ouvrir l'appétit tout simplement. L'apéritif, c'est ce qui ouvre le repas et ce qui ouvre l'appétit par la même occasion. Le plat de résistance, c'est ce qui permet de tenir jusqu'au prochain repas tout simplement. Donc voilà pourquoi on parle de plat de résistance. Alors, le mot dessert, ça vient de la desserte, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fin de repas, bien entendu, on dessert les assiettes. Donc, le dessert, c'est ce que l'on sert au moment du dessert, c'est-à-dire au moment où l'on retire les assiettes. Il y aurait aussi, enfin, on pourrait comme ça développer, on pourrait parler des entremets, par exemple, qui viennent se placer entre les plats principaux, etc. etc. Finalement, beaucoup de logique dans tout ça et une certaine transparence.